J'ai pas confiance en moi. J'ai tout d'une fille fragile. Je me mets dans tous mes états. Aussitôt que la vie vacille, toutes ces choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux. Mais j'en peux plus de me mentir. J'arrête de cacher mon jeu.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Soundtrack of My Life sur Freaksville. Nous accueillons Rory, bonjour.
Bonjour.
On écoutait Ma Place, le titre qui ouvre votre premier EP, Ma Saison en Enfer, qui est sorti fin janvier. Un EP, vous avez écrit les musiques, les textes, et De Place, mais il me semble que vous l'avez déjà trouvé, parce qu'en 2022, Docteur, on l'a entendu partout. 9e chanson la plus diffusée sur les radios francophones. Ma saison en enfer, on dit bien ma saison en enfer. Vous l'avez vécue, elle est derrière vous. Il y a un peu de soleil maintenant dans votre saison.
Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est complètement ça. C'est, cette EP, c'est un peu comme un espèce de journal où j'ai écrit toutes les choses qui étaient un peu compliquées, mais que maintenant je peux les regarder de loin. Et c'est vraiment une saison qui est passée, quoi. C'est vraiment ça, ce petit EP.
Quand on écoute le single Ma Place, quand on écoute les autres plages de Ma Saison en Enfer, voilà, on sent qu'il y a un vécu qui était assez douloureux, mais finalement, c'est des rythmes en balance, c'est up-tempo. C'est votre manière, justement, de contrebalancer le propos avec une musique plus entraînante, plus ensoleillée.
Ouais, et c'est un peu aussi pour exprimer le paradoxe de la vie, je trouve, où... c'est des choses, il peut se passer des choses extraordinaires et des choses horribles. Et je trouve que ça représente bien en fait la vie, du fait que c'est un mélange de tout ça, que c'est des up and down constamment. Et je trouvais que ça se prêtait bien en musique d'avoir des musiques beaucoup plus solaires presque, mais avec des textes beaucoup plus durs, entre guillemets. Mais j'essaye toujours, par exemple, dans les bridges, au niveau des structures des chansons, dans les paroles, d'apporter un peu de positif quand même. De dire, j'en retire une leçon, j'en retire quelque chose et j'arrive à m'en sortir et à faire ce que je suis en train de faire maintenant, quoi, de la musique.
Quand le EP est sorti, il y a eu de très très bonnes reviews, des chroniques dans la presse. Il y avait souvent la même expression qui revenait, on parlait de pop générationnel. Est-ce que vous avez reçu justement beaucoup de réactions par rapport à ces chansons, des gens finalement, des filles, des garçons de votre génération qui se retrouvaient dans vos textes, dans votre vécu?
Ouais, j'ai eu pas mal de messages sur Instagram et même dans les commentaires YouTube, j'ai vu beaucoup de personnes qui se sentaient concernées par les choses qui sont écrites dans l'EP et ça m'a surprise et au final je me suis dit oui en fait on est tous les mêmes d'une certaine manière, on a tous ce point en commun où il y a des moments dans nos vies où ça va pas du tout. Et de voir qu'il y a autant de gens qui partagent ça, on se sent moins seul en fait. Ouais.
Un des messages principaux du EP, c'est aussi de dire qu'on s'en sort malgré tout, que la vie est plus forte que tout.
Ouais, et surtout qu'on a tous des problèmes à des degrés différents, on vit tous des choses complètement différentes, mais je pense qu'on passe tous par des étapes où pendant des mois ou même des années, c'est très compliqué, mais que c'est possible d'un jour de se dire « Ok, je vais taper dedans, comme j'ai dit, et je vais faire en sorte que ça se passe mieux, en fait. »
Rory a sélectionné quelques chansons qui ont compté pour elle dans un parcours déjà très riche, et on va commencer par ceci.
Good time.
soundtrack of my life sur Freaksville avec notre invité Rory. On écoutait Chic Good Times avec sans doute l'une des lignes de basse les plus célèbres de l'histoire de la pop que l'on doit au regretté Blake Edwards. Good Times, c'était le morceau qui figurait sur Risqué, une chanson qui renvoie automatiquement à votre enfance. C'était dans la discothèque des parents, l'album de Chic.
Ah ouais, c'était un qui tournait tout le temps pour aller à l'école, pour revenir de l'école, comme ça toute la semaine. Et ouais, c'est des... ma sœur et moi, ouais, on a vraiment été baignés là-dedans. Chic, entre autres, Nile Rodgers, c'était vraiment notre tonton, on va dire, dans la musique. Et ouais, c'était chouette, en fait. Et c'est plus tard, en grandissant, que je me suis dit, ah ouais, tout le monde... Enfin, les parents n'écoutent pas nécessairement tous la même chose. Et je me suis surtout rendu compte que les miens étaient... On va dire, c'était complètement... c'était pas du tout la chanson française, malgré qu'on parle français à la maison. Et ouais, donc j'ai... Franchement, je suis là... j'ai senti que j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui écoutaient des choses...
Une belle éducation musicale.
Ouais, ouais, vraiment.
Et vous encourageaient à suivre des cours de solfège, à chanter, aller voir des concerts ensemble?
Non, pas du tout. C'était juste écouter de la musique. Juste comme ça. Et déjà, j'ai grandi dans une toute petite commune. Donc, il n'y a pas énormément... dans mon entourage, il n'y a pas d'artistes, de gens qui font de la musique. Et même, il y avait une académie, par exemple. Mais pour y aller, c'était compliqué parce que tu pouvais pas... Enfin, il y avait des listes d'attente de 3 ans pour faire un instrument parce que c'est un tout petit endroit et que voilà, il n'y a pas énormément de choses proposées. Et du coup, c'était un peu compliqué de faire de la musique là-bas. Du coup, j'ai vraiment commencé à faire de la musique sans voir vraiment, en fait. C'est assez étrange. Mais mes parents, ils écoutaient juste de la musique et c'est déjà pas mal, en vrai.
Vous découvrez la musique, les albums de Chic dans la discothèque de vos parents. Et puis, 2015, premier album acheté par Rory, Jimmy XX, qui est la moitié du duo d'XX, il sort un album solo qui s'appelle In Color. Je me souviens, c'était une pochette très colorée, effectivement, avec une musique quand même plus mélancolique. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce premier album In Color, au point de casser vos tirelets pour l'acheter?
En plus, c'était un vinyle.
Waouh.
Ouais. Ouais. En fait, j'achète pas de CD, mais j'achète les vinyles quand j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour un artiste et son album. Donc, j'ai pas beaucoup de vinyles, mais ceux que j'achète, en tout cas, c'est vraiment ceux où je suis dit, ouais, ça, j'ai trop envie de l'avoir avec moi. Et ce que j'ai aimé, c'est justement, j'ai retrouvé énormément d'influences. C'est très pop, funk et de l'électro. Donc, c'est vraiment, je trouve, le son de 2015. C'est vraiment une espèce de capsule temporelle et qui est hyper bien fait et qui sonne pas qui vieillit bien, je trouve aussi, parce que du coup j'ai été réécoutée parce que ça faisait longtemps que j'avais plus écouté. J'étais là, ouais, c'est fou, il y a vraiment un style qui est là et ça vieillit pas, quoi. Et c'est vrai que c'est un album, la première écoute, j'étais là, ouais, c'est bon, ça c'est un classique.
Ça va rester.
Ouais, ça va rester.
On va écouter Gauche, qui est la plage d'ouverture de cet album de Jimmy XX In Color, paru en 2015.
my God.
Rory est notre invité dans Soundtrack of My Life. Nous écoutions tout d'abord Gauche, plage extraite de l'album solo de Jimmy XX, premier disque acheté par Rory. Et puis c'était Swim de Beffroi en 2015. Alors Rory n'existe pas encore, mais c'est votre voix et vous chantez en anglais. Ouais. Expliquez-nous cette aventure Beffroi. Elle naît à Anu, la petite commune près de Liège, la petite ville.
Exact. Comment ça s'est fait? Retour en arrière. Il y a un moment où il y avait une maison des jeunes quand même à Anu, où on pouvait faire des cours de guitare un peu découverte. Et moi, je m'étais dit, bon, je vais essayer, sans me dire que j'allais faire un groupe ou quoi que ce soit. C'était encore juste un petit passe-temps. Vraiment, je le voyais vraiment comme ça. Et il y avait du coup Valentin Vincent, qui est mon meilleur ami, que je connaissais pas en plus. Donc, on s'est rencontrés là-bas. Et après quelques années à la maison des jeunes, et ben moi j'avais envie de me dire, ok, je sens que j'ai fait le tour et je suis plus très... Enfin, c'était un peu... ça tournait en rond, donc je voyais pas vraiment une évolution là-dedans. Et c'était ma dernière année, je dis, je vais arrêter. Et en fait, on s'est retrouvés avec Valentin, il m'a dit, on ferait bien un groupe et tout ensemble. J'ai fait, ok. J'étais très... Mais oui, j'ai dit ok, mais comment dire, j'avais pas d'idée en tête en me disant on va faire ça, on va faire autant de morceaux.
Vous étiez dans le moment présent, pas de passion, pas de plan carrière.
Non,
encore.
Pas du tout, okay. Pas du tout. C'était une époque où moi j'étais j'étais complètement perdue et je savais pas, j'étais complètement paniquée par ce qui allait se passer dans le futur. Et donc j'étais toujours dans cette pensée en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, l'école c'est une catastrophe, j'y arrive pas du tout, enfin c'est trop compliqué et je vois pas de porte de sortie, je sais pas du tout quoi faire, je suis en panique, je suis dans l'anxiété, je vis dans une anxiété continue, je suis agoraphobe, je suis tout, j'ai tout à ce moment-là de ma vie. Du coup, on me propose quelque chose, je fais mais sans, comme je l'ai dit, sans me dire je vais en faire quelque chose. Et en fait, c'est petit à petit, Valentin, lui qui était déjà sur Ableton, il faisait de la production déjà beaucoup plus avancée, il m'a montré tout ça, il m'a dit en fait, on sait faire de la musique avec ça, c'est comme ça que Jimmy XX y travaille, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'industrie, enfin, entre guillemets. Et aussi il a sa famille qui est très artistique aussi, genre ses frères, un de ses frères il dessine extrêmement bien, le deuxième aussi, et ses parents c'était complètement différent des miens, donc c'était une découverte pour moi de voir une famille dans l'art tout simplement qui je sais pas, c'était très différent et ça m'apaisait beaucoup en fait d'aller chez lui, de voir un autre fonctionnement, de voir un milieu plus artistique, plus... c'était des moments de calme, en fait. Et c'est comme ça que Beffroi est né et qu'on a commencé à travailler ensemble et voilà.
Et c'est comme ça que c'est devenu sérieux pour vous, la musique?
Sérieux...
Petit à petit?
Même pas. Non. Même pas. C'était juste des moments où moi, ça me permettait de sortir un peu de ma tête. Mais dès que je rentrais chez moi, ça recommençait, quoi. J'étais complètement en dépression, on va le dire. De toute façon, j'ai pas honte de ça. Mais c'était la dépression sévère. Mais grâce à Valentin, j'ai eu des moments où j'ai pu un peu sortir de ça. Mais j'avais quand même pas de vision pour un futur. Genre, j'étais tellement à l'ouest que je pouvais pas... j'arrivais pas à m'imaginer quoi que ce soit... Après quoi.
Mais je sais que c'est un cliché, mais quand on passe d'un projet comme Beffroi en anglais, passer en projet solo, Rory, vous chantez en français, on dit souvent, si vous passez en français, c'est quand même une manière, on se cache moins, on fait plus attention au texte. Ça veut dire qu'il y a quand même plus de confiance en vous, vous assumez davantage tout ce que vous venez d'expliquer finalement.
Ouais, c'est ça. Et c'est un peu mon histoire tragique, c'est que Valentin, il est mort je sais même plus la date, c'est fou. Le temps, il est complètement enfin, je sais même plus, j'ai plus du tout la notion du temps, c'est assez dingue. Et en fait, quand il est mort, je me suis dit, mais je comprends pas, lui, il ferait n'importe quoi pour être en vie. Et moi, en fait, je respecte absolument pas ça, j'ai vraiment pas envie de vivre. Et je me suis dit, mais il doit y avoir quelque chose, enfin, quelque chose qui pousse, enfin, qui te dit, moi j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire plein de choses. Et c'est ça, en fait, qui a changé énormément dans ma tête. Ça a été un déclic instantané où je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête de me poser des questions parce qu'il n'y a pas de sens dans la vie. Enfin, il y a des gens qui meurent comme ça du jour au lendemain, il y en a qui restent en vie. Et je suis là, mais ouais, c'est fou, quoi. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Il n'y a rien, quoi. C'est juste, ça n'a pas de
déclic.
Sens. C'est... Ouais, c'est ça, le déclic. Et c'est là que j'ai... Et c'est là la première fois de ma vie où je me suis dit, oh ben, je vais faire de la musique, en fait.
Et là, vous avancez sur votre projet.
Ouais.
Dans le projet, sur le EP et sur scène, hein, j'ai encore eu l'occasion de vous voir à Groningen, à l'Eurosonic. Vous avez fait très forte impression. Il y a des guitares,
ouais.
Rock. C'est très, très cool. Cette passion pour le rock, elle est née quand ?
Justement, il y a les goûts musicaux des parents, puis il y a ceux qu'on se crée. Et moi, je sais pas, j'ai tout de suite eu une énorme admiration sur les groupes anglais comme Arctic Monkeys ou Supergrass, les Beatles, tout ça. Je me souviens, j'étais là, waouh, mais c'est trop bien, ça sonne de ouf, c'est vivant en fait. Et c'est ça que j'ai toujours aimé. Mais avant, avec Dans Beffroi, je pouvais pas émuler ce sentiment vu que j'étais dans un tourbillon de tristesse. Et dans Rory, je me dis, ben là, c'est le moment, je me sens prête à assumer d'être avec des guitares qui prennent de la place, mais que je sais que moi, je peux aussi vivre à côté de ça. Et c'est vraiment
un rêve. Il y a beaucoup d'énergie sur ça.
Ouais. Et c'est vraiment un rêve pour moi. Qui est devenue réalité.
Mais justement, quand vous êtes en studio pour faire cette EP, vous dites ah, il me faut des guitares, on vous répond c'est pas tendance, les guitares.
Oh, ça, moi, je m'en fous complètement.
Voilà.
Ça, je m'en fous.
Il faut les imposer.
Ouais, moi, en fait, je suis très. Je suis quand même si je suis distribuée par Warner, je suis très indépendante dans tout ce qui est dans la création.
C'est très bien. C'est très bien.
Il n'y a personne qui me dit comment je dois faire. À quoi ça doit ressembler, les sonorités du moment. Et ça, il y a jamais eu une discussion comme ça. C'est vraiment moi qui dis, moi, mon choix, c'est de mettre ça. Et d'ailleurs, dans d'autres morceaux, les guitares sont beaucoup plus présentes. Et voilà.
Le groupe de rock ultime, c'est Arctic Monkeys, vous l'avez vu tout à l'heure. Vous collectionnez tous les albums. Qu'est-ce qui vous touche chez Alex Turner et sa bande ?
Tout simplement le songwriting. C'est un génie pour l'écriture d'histoire et même ce qu'il raconte, c'est je sais pas, c'est en plus avec les années maintenant ça devient de plus en plus chic comme ça, plus raffiné et je pense qu'ils ont fait l'album pop rock ultime AM qui est juste une masterpiece et se dire que une personne peut créer ça. C'est assez impressionnant, quoi. De dire qu'il y a un petit gars comme ça de Londres qui a pu faire danser et faire ressentir autant d'émotions à travers le monde. J'ai que de l'admiration pour son travail. Et c'est un groupe que genre, j'avais 10 ans, j'écoutais déjà parce que j'ai une grande sœur qui avait ça dans son ordi et on se partageait iTunes. Du coup, c'était sur mon iPod et... Je me souviens avoir écouté ça, j'étais là, waouh, mais c'est quoi ça? C'est trop bien, j'ai jamais entendu ça. Et ouais, c'est un groupe que je suivrai, à mon avis, jusqu'à la fin.
Masterpiece, pour qualifier l'album AM qui est paru en 2013, on va écouter un extrait de cet album, Snap Out of It, les Arctic Monkeys. I gotta tell you the truth. Soundtrack of My Life avec notre invité Rory. On écoutait les Arctic Monkeys, groupe dont vous collectionnez tous les albums. Et puis, dans un autre genre, l'écorché vif Bon Hiver en duo avec la chanteuse américaine Saint-Vincent, Sin Vincent. Le morceau, c'est Rosine 2009. Un titre, c'est ce que vous nous avez dit en préparant l'émission, qui a le pouvoir de vous arracher des larmes. Ouais. Expliquez-nous un peu pourquoi vous écoutez ce genre de musique. C'est des chansons tristes pour être plus tristes? C'est des chansons tristes qu'on écoute pour se consoler? Pourquoi?
Les deux. Hein. Des fois, quand... Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, quand tu sens que tu as une émotion qui est coincée, mais que tu n'arrives pas à la sortir, tout simplement. Et ben, un petit Bon Iver et ça sort. Ouais, c'est un morceau qui est là depuis longtemps, mais qui m'arrive d'écouter tous les X temps, parce que même si je n'ai pas besoin de pleurer, je trouve que ça met une espèce d'émotion dans la pièce où il y a un petit peu le temps qui s'arrête. Et t'arrêtes ce que tu fais et tu prends le temps d'écouter cette chanson qui est magnifique, en fait.
On rentre directement dedans, ouais. c'est vraiment un univers particulier.
C'est ça.
Ce titre-là, Rosine, figurait notamment dans la BO de la saga Twilight. Est-ce que vous êtes très BO, Rory?
Pas tellement. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'elle était dans la BO de Twilight. Je l'ai appris genre... Il y a longtemps quand même, mais quand je l'écoutais, je savais même pas qu'elle était dans la BO. J'avoue que j'ai pas trop suivi cette saga. En fait, j'écoute quand même. Des fois, ça m'arrive d'écouter les BO des mangas. Tu vois, les génériques et tout, qui des fois sont vraiment exceptionnels, je trouve. Et des fois, je vais les écouter pour me donner de l'énergie. Parce que c'est très énergique, très rock aussi. C'est ça qui est marrant dans la musique japonaise, c'est qu'ils ont vraiment... pris le rock et ont synthétisé ça à leur sauce. Et c'est assez marrant de voir que c'est quelque chose qu'ils ont gardé tout le temps, quoi. Même malgré les différentes tendances, ça a toujours été présent dans les animes.
Avec une vision très romantique. Alors, vous avez fait dans vos choix, vous avez demandé de parler d'une BO tirée d'un film d'animation fantastique, Le Château Ambulant.
Ouais.
La BO, elle est signée Joe Hisaishi, j'espère que je prononce bien, un compositeur japonais. Il a un CV gros comme une maison.
Ouais.
Je suis allé voir sur Wikipédia. Ouais. On va écouter un extrait. Thank you. Merry Go Round Life, un des thèmes composés par Joe Hisaishi pour la BO du film d'animation Le Château Ambulant. Ouais. C'est sorti en 2004.
Ouais.
Les films animés, les mangas, ouais. C'est votre univers.
Ouais, c'est.
À fond.
C'est ma vie.
C'est votre vie, carrément.
Ouais, ouais, parce que. Mais déjà, Château Ambulant, c'est mon film préféré, déjà.
Le et... pitch. Rapidement,
oh, le pitch. Oh, je suis nulle en pitch. Mais bon, ok. Donc, c'est Sophie, qui est une jeune fille qui n'a pas du tout confiance en elle et qui vit beaucoup avec le regard des autres. Elle se. Comment dire, elle se dénigre beaucoup, elle dit qu'elle n'est pas jolie, que... enfin tout ça. Et un jour, il y a une sorcière qui lui jette une malédiction où elle devient vieille. Mais genre, elle a, je sais pas, je pense qu'elle a 16 ans et là, elle a 90 ans. Et du coup, elle décide de partir de la ville où elle était et elle, elle atterrit dans le château ambulant qui appartient à Aoru, qui est un sorcier qui est... hyper beau, qui est magnifique, qui brise les cœurs des jeunes filles. Et elle arrive dans ce château qui est, où il y a Calcifère, qui est un petit démon. Il y a aussi... voilà, c'est tout un univers comme ça. Et on suit ses aventures et, en fait, on apprend que, ouais, que le regard des autres, c'est pas ce qui compte et qu'il faut avoir confiance en soi. Et c'est ça, en fait, Miyazaki. C'est ce que j'aime bien chez lui, c'est que ça, c'est pas quelque chose d'évident qui va crier dans, ses, dans les textes ou dans les scénarios. Il laisse le spectateur comprendre par lui-même ce qui se passe et je trouve qu'il met extrêmement bien en valeur les personnages féminins parce qu'il les caricature pas. Mmh. Genre, on peut regarder par exemple Princesse Mononoke, c'est l'héroïne et c'est pas... ouais, je trouve que comment il décrit les personnages féminins, ça fait du bien de voir ça. Et moi, par exemple, j'ai grandi avec ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont j'avais pas compris que ça avait eu un impact, entre guillemets, négatif sur les filles. Par exemple, Disney qui est très... très oh, j'ai besoin d'un prince charmant pour me sauver. Et Miyazaki, il n'y a pas du tout ce genre de... scénario et ouais je pense ouais ça m'a donné une certaine liberté je pense même sans le comprendre
mais vous racontez ça très bien Château Ambulant
en même temps je l'ai vu 300 fois
c'est des belles histoires ouais. Votre personnage manga préféré votre héros préféré ou héroïne
j'en ai peut-être plusieurs je pense que le mon premier ça a été Naruto c'est vraiment été c'est ma base et on a c'est Dragon Ball ben après, c'était Naruto. Et aussi, il y avait Nana, qui est un manga où il y a deux filles qui s'appellent Nana, qui se rencontrent dans un train. Elles vont toutes les deux à Tokyo, dont Nana, qui veut faire de la musique en plus. Donc, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais c'est fou. J'étais en admiration devant la Nana qui fait de la musique. Je voulais trop, dans ma tête éloignée, je voulais trop faire comme elle. Et au final, je me dis, mais c'est fou. Je suis en train de, entre guillemets, vivre un peu comme elle, cette espèce d'aventure assez fou.
Dans la vie réelle, pas dans un manga.
Ouais. Et c'est vrai que je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps et je me suis dit, waouh, ouais, c'était comme si c'était écrit. et ouais, c'est de voir ce personnage Nana qui est là et qui fait ses trucs, quoi. Un peu comme moi, je m'en fous de. Je m'en fous. Un peu de ce qu'on pense, du regard, et je fais juste ce qui me plaît, tant que moi, ça me parle et que ouais, j'ai pas de contraintes. C'est dur, mais c'est la vie et ça donne envie de se battre, quoi.
On vous a entendu beaucoup en 2022. On vous a vu déjà pas mal dans les concerts, dans les festivals. Il y a beaucoup de naturel. Moi, ouais. Ça, j'aime beaucoup parce que merci. C'est jamais, excusez-moi, c'est jamais le concert parfait, mais il se passe toujours quelque chose.
Ouais.
Et c'est jamais deux fois le même concert. Je vous ai vu quatre fois en un an. J'ai toujours eu une impression différente. Donc, je trouve ça assez attachant. En préparant l'émission, vous avez demandé l'artiste belge qui vous fait kiffer aujourd'hui. Et donc, je m'attendais peut-être à entendre Doria, Charles ou autre. Et non. C'est ce morceau-ci. Daydream, I fell asleep. Wallace Collection, cultissime groupe belge avec le cultissime Daydream paru en 1969 qui était samplé ouais. par plein de groupes anglo-saxons. C'est l'artiste belge et la chanson qui vous fait kiffer en 2023. Expliquez-nous. C'était dans la collection de vos parents aussi ?
Non, même pas. Celle-là, il n'y était pas. Ben, en fait, je ne sais pas, genre il y a 2-3 ans, je pense que j'ai vu cette info passer que c'était un groupe belge. Je fais non, c'est pas possible. Alors je vais sur Google, je tape et je vois oui, groupe belge. Je fais non, ce morceau qui a été samplé, comme tu as dit, par des millions de groupes. Et je suis là, non, c'est fou de se dire que ça a été fait dans notre tout petit pays. Et surtout que ça sonne anglais, quoi. Et tu dis, ok, donc les Anglais, ils ont été chopés un petit truc en Belgique pour faire leur son ou quoi. Et ouais, ça, je m'en remets toujours pas en fait que ça a été fait dans ce petit pays, quoi. Surtout à cette époque-là où il y avait déjà pas mal de gros noms qui étaient présents. Et ouais, c'est un groupe que j'admire, quoi. Je suis là, ouais, c'est fou de se dire qu'un petit groupe belge a réussi à faire une chanson qui reste et qui est toujours là, quoi. Donc beaucoup de respect pour ce groupe.
Beaucoup de respect pour Auré aussi. On rappelle Ma Saison en Enfer, premier EP qui est sorti en janvier. Le reste de l'année, comment vous voyez ça? Beaucoup de concerts, vous pensez déjà à un album?
J'ai pas envie de me dire qu'il faut que je fasse un album, quoi que ce soit. Là, je suis plus en mode.
Prenez le temps.
Ouais, je prends le temps, je fais beaucoup de chansons. D'ailleurs, là, je reviens de 3 jours de studio. Ça s'est très bien passé. Et là, je suis plus. En mode j'écris, on fait des tests de production, est-ce que j'ai envie de proposer comme son, parce que j'aime bien aussi explorer, j'ai pas envie de proposer qu'un certain type de chanson, j'aime bien expérimenter. Vraiment, c'est un truc que j'aime bien faire, donc là je suis un peu en expérimentation, mais quand même ne pas perdre l'essence que j'ai commencé un peu à créer avec cette EP, mais voir où je peux aller, jusqu'où je peux aller en termes de sonorité, d'écriture. Voilà.
Il y a une salle où vous rêvez de jouer en Belgique ou en France? Ça marche très bien pour vous aussi?
J'ai pas trop ce truc-là de rêver d'un endroit. J'ai juste envie de faire des concerts partout.
Voilà. C'est très simple. Vive le moment présent.
Ouais, voilà.
Merci beaucoup, Auré. On va terminer ce Soundtrack of My Life avec un dernier choix, dernier coup de cœur, dernier morceau que vous avez téléchargé. C'est Gascombes, Turn the Car Around. Gascombes, qui était le chanteur de Supergrass. Ouais. Encore cette Britpop anglaise. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous touche dans ce morceau?
Déjà, Supergrass, ils ont fait ça quand ils avaient 16 ans.
Ouais.
Donc c'est assez... tu te dis, mais à 16 ans...
It's all right.
Ouais. Et tu dis, et moi, t'es là, mais à 16 ans, qu'est-ce que je faisais, moi? Moi, à 16 ans, j'étais en panique, j'étais dans mon lit, je faisais rien, quoi. Et il y a ce truc-là de se dire que aussi jeune, arriver à créer des morceaux qui sont toujours là, quoi. Et c'est des génies. Enfin, surtout Gascombes, en termes d'écriture et de... Ouais, tout simplement, c'est vraiment des génies, quoi. Et... j'invite vraiment tout le monde à aller écouter Gascombes et Supergrass, parce que c'est en fait on entend d'où vient tous ces sons Britpop et tout ça. C'est vraiment eux qui ont installé pas mal d'éléments qui font qu'aujourd'hui on reconnaît le son Britpop rock des Anglais.
Alors, on va écouter cet extrait Turn the Car Around qui est sorti sur l'album Matador, hein, qui est paru début de cette année. Merci beaucoup, Auré. Et nous, on va inviter tout le monde à aller vous voir en concert, parce qu'il y a beaucoup d'énergie sur scène, et redécouvrir ou découvrir et découvrir Ma Saison en Enfer, votre premier EP. Merci beaucoup, Auré.
Merci.
Turn the car around. It's not-
Across